Je ne m'attends pas donc comme ça. Voilà donc, je vous demande d'adopter le dernier procès-verbal de la dernière session, qui n'a pas fait l'objet de remarques écrites, il y en a-t-il en séance, Madame Pérez, on écoute.
Mais comme d'habitude, nous nous abstenons, puisque le compte rendu n'est pas celui que nous attendons.
Alors, ça je l'entends. Néanmoins, je suis tenu de vous dire que le compte rendu que nous produisons est un compte rendu qui est conforme à la loi, que je ne refuse pas d'annexer, quand vous avez un document qui explique un vote ou qui explique ce que vous voudrez, je suis prêt à l'annexer au conseil municipal. Vous filmez le conseil municipal, vous en extrayez ce que vous voulez extraire, je ne pense pas que vous soyez en manque d'informations. Après, pour le reste, ça vaut également pour tous les membres du conseil.
Nous souhaitons nos interventions et nos réponses.
Voilà, donc écoutez, il est dit, dans ce qui est rapporté, j'allais dire, on n'est pas dans une assemblée comme le Sénat ou l'Assemblée nationale, où on a des minutes, on a des gens dont c'est le métier, et qui écrivent les interventions de chaque personne qui ensuite les rapporte au niveau de la province. C'est pas du tout mal intentionné vis-à-vis de vous, c'est voilà.
Ouais. Non, mais c'est quelque chose qui se fait dans d'autres communes. Les communes
vous m'amènerez les communes de Castellon,
de Vézin.
Palavas, moi je ne prends pas exemple sur Palavas, mais je peux entendre que ça existe. Quoi.
Il y a un micro pour le conseil municipal à Palavas.
Oui.
Mais c'est qui le maire qui le tient.
Ah, ça, je ne sais pas, mais. Bon, okay. Je prends note de votre demande. Nous essayons au mieux de rendre compte des débats. Après, ce ne sont pas des comptes rendus détaillés. Voilà. Bon. Voilà. Donc, merci pour cette intervention. Avant d'ouvrir la séance, donc, le mardi 18 octobre, disons que, Monsieur Michel Bacala, qui a été maire de notre commune de 1989 à 1995, nous a quittés. Bon nombre de 1989. C'était le premier mandat, 1995, ensuite il a fait un mandat de maire jusqu'en 2001, et un mandat de conseiller général jusqu'en 2003 ou 2004, c'est ça ? 2004, voilà. Donc Michel Bacala nous a quittés, avec l'équipe qu'il dirigeait, on lui doit l'extension de la mairie en 1993, la création de la médiathèque, on la voit, et la contribution aux écoles, aux groupes scolaires, Louise Michel et Jean Monnet notamment, voilà. Donc, je vais vous demander, aux uns et aux autres, en sa mémoire, d'observer les minutes de silence. Ensuite, j'ai, après ce moment de recueillement, j'ai une annonce à vous faire par rapport au prochain conseil municipal qui se tiendra le lundi 19 décembre. Ce conseil municipal va être innovant puisqu'il va se tenir sous forme dématérialisée. Vous savez que la dématérialisation des assemblées délibérantes est une obligation induite par la loi NOTRe à partir du 1er janvier 2017, donc ça va être un petit peu une répétition. Alors, vous allez me dire, il nous faudra des éléments, il faudra qu'on équipe chaque conseiller d'un support sous forme d'une tablette numérique. Malheureusement, la loi NOTRe n'étant pas connue en début d'année, le marché ne porte pas l'inscription de cette tablette numérique. Néanmoins, nous allons faire en sorte d'en doter les conseillers qui n'en ont pas, puisque déjà les conseillers communautaires en sont dotés par l'intercommunalité. Voilà. Je précise qu'il n'est pas fait obligation aujourd'hui à la commune de vous les fournir pour le prochain conseil municipal. Il est fait obligation de porter sur votre email personnel la convocation et les éléments du contenu du conseil municipal qui seront ensuite projetés en conseil municipal. Bien entendu, dans les meilleurs délais, et si cela nous est possible, nous procéderons selon les reliquats de budget. Je ne sais pas si c'est possible parce qu'on va voir si d'ici la fin de l'année, si d'ici cette date, on peut les acheter ou pas. Voilà. Madame Combat.
Excusez-moi, mais qui dit tablette dit Wi-Fi. Et moi, je n'ai pas de Wi-Fi chez moi parce que ça me pompe l'air. Et donc, je veux dire, il faut pouvoir travailler sans Wi-Fi. J'y suis arrivée avec l'Arlo qui m'envoie, des mails normaux, je dirais. Peut-être que vous aussi êtes sensible à la Wi-Fi. Moi, j'ai Internet, mais j'ai coupé la Wi-Fi. Je n'ai pas la Wi-Fi.
Si vous voulez, la Wi-Fi n'est qu'un des éléments pour transmettre l'information. Moi, je ne suis pas un technicien. Je rappelle que dans un cadre statutaire et obligatoire, nous devons le transmettre de cette manière-là. Bon, nous verrons ensuite comment ces adaptations peuvent être faites. Je ne suis pas chargé non plus de vérifier dans chaque domicile, chaque élu, si vous êtes en zone de réception, en zone blanche, ou si vous êtes victime de la fracture numérique. Je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc, en tout cas, je l'annonce et nous aurons, ce sera une première, puisque déjà à l'agglomération, les convocations et le conseil d'agglomération est dématérialisé. Donc déjà, nous sommes en
train de faire.
Eh bien, vous allez recevoir sur votre mail. J'ai dit que vous allez le recevoir sur votre mail. Et j'ai dit, pour anticiper une question que vous aurez pu poser, mais que vous avez parlé pour rien parce que vous avez déjà une tablette. Donc, autant je pourrais entendre Mme Muller me faire cette demande, M. Pradeil, même si peut-être ils sont déjà outillés, mais enfin la collectivité fournira ce qu'elle doit fournir aux conseillers de manière républicaine. Pardon ?
Je suis canadien, moi.
Voilà. Et résistant. Voilà. Bien, voilà. Ceci posé, cela dit, on en vient donc aux premières décisions relatives à l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, qui sont relatives. La première est une opération programmée de l'habitat pour une subvention rue de la Motte. La deuxième également. Ensuite, nous avons des contrats de spectacle, avec actuellement le premier, M. Arzillier, à l'exposition, c'est un artiste en résidence à la salle Morastel. Donc, s'en suivent tous les contrats relatifs à la danse, aux médiathèques, au théâtre, dont je salue la qualité des derniers spectacles, notamment, puisque nous étions. La jauge était pleine avec les élèves du collège pour une version de Hamlet revisité. Voilà, donc vous avez tout cela en page 2. Ensuite, il y a une décision d'instaire et justice, c'est une requête par rapport à un titre et par rapport à une déclaration préalable, c'est un problème d'urbanisme. Voilà. Bien sûr, les documents sont à votre disposition si vous les souhaitez. Nous avons ensuite les marchés publics. Les marchés publics avec une acquisition de débroussailleuse et d'un véhicule pour le port de Carnon. S'en suivent ensuite les procédures adaptées pour les travaux supérieurs à 90 000. Donc nous avons notamment l'avenue Jean-Baptiste Clément. Si des fois vous étiez tenté de me poser la question, les travaux commencent demain. Voilà. Et la durée approximative est une durée de 6 mois. Voilà. Il était temps qu'on les engage, puisqu'il était au budget 2016, mais enfin, ça y est, on y est. Madame, comment on annonce
Il y a des fournitures de mobilier urbain. Si on additionne le tout, parce qu'on voit les mêmes prestataires, ça fait 260 000 euros. C'est pour où tous ces mobiliers urbains?
Le mobilier urbain, c'est notre marché à bande de commande. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on a besoin d'une barrière, d'un pylône, d'un portelet, on va se servir. Mais ce sont des marchés différents. C'est pas le même marché, c'est des marchés, vous avez des lots, c'est à loter, vous voyez.
Oui.
Voilà, vous les avez, alors si
c'est
vous voulez regarder...
C'est pour toute la commune.
Oui, si vous regardez la nomenclature, ben, je sais pas moi, l'urbanet, c'est le 1, ensuite l'autre c'est Benito Urbain, ça doit être quelque chose avec l'église, ensuite le centre international, ça doit être avec l'office, j'en sais, il faut voir. Vous avez même pour Notre-Dame. Voilà. Et ensuite, vous avez les avenants en page 4. On a un avenant pour le marché de maîtrise d'œuvre d'extension du restaurant scolaire Jean Monnet. On nous a demandé une prestation supplémentaire. Il a fallu faire une salle de réunion, il nous a fallu faire un sas, il nous a fallu... ils ont complété le projet initial, donc on a rajouté un peu d'argent. Et ensuite, voilà, il y a les maintenances et caisses automatiques, les bails de contrôle d'accès. Et ensuite, c'est les fusions de sociétés, avec les sociétés qui reprennent. Voilà, puis fourniture de vaisselle. Et enfin, l'extension de la bibliothèque administrative de Carnot, qui est terminée. Voilà, pratiquement terminée. Il ne reste plus qu'à avancer à servir. Voilà. Donc ça, c'est le porté à connaissance que vous avez eu. J'en viens au point numéro 2, relative à la modification des statuts de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or. Alors, cette loi NOTRe, petit à petit, on la découvre. Et il faut savoir qu'à l'horizon 2020, la loi NOTRe va opérer des changements importants pour l'intercommunalité. Alors, au niveau économie, nous avons une nouvelle compétence qui est relative au tourisme. Alors, indépendamment du devenir de la loi Montagne, qui est étudiée en ce moment par les chambres députés et Sénat, indépendamment du verdict qui sera rendu, à aujourd'hui, les communautés d'agglomération ont la compétence, de par la loi NOTRe, pour l'action de promotion de tourisme et la création d'offices de tourisme. Je rappelle que nous avons délibéré, nous, avant le 31 octobre, afin d'avoir un caractère dérogatoire pour les communes qui avaient une quoi ? Nous avions une labellisation, nous étions office de tourisme classé. Voilà. Palavas, La Grande-Motte et Carnot. Donc nous sommes exemptés en partie de cette obligation. Néanmoins, nous sommes tenus, comme les 7 autres communes de l'agglomération, d'adopter la modification de ces statuts qui affecte également la prévention des inondations, la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations, pour faire simple, et au 1er janvier 2020, alors ça c'est en 2018, la GEMAPI pourrait faire l'objet d'une taxe 20. On verra ce que le prochain exécutif décidera, mis à part que si la loi le dit, ça sera acté. Il est possible qu'il y ait une taxe supplémentaire qui soit, imposée aux ménages pour prévoir un budget spécifique à la prévention des inondations. Voilà. Oui, certains parlent d'une quarantaine d'euros, mais je ne sais pas, il y en a toujours un qui dit quelque chose, qui lance le lièvre. On verra si la chasse est fructueuse ou pas. En tout cas, ça fait partie des compétences qu'auront les communautés d'agglomération, et tout comme le volet écoulement des eaux pluviales, avec la compétence, dans le cadre de la compétence assainissement, en janvier 2020. Voilà. Donc, il convient, je vous fais grâce de la littérature, donc il convient d'approuver les statuts de la communauté d'agglomération du Pays de l'Or et d'autoriser, notifier la présente délibération une fois exécutoire au président de l'agglomération du Pays de l'Or. Voilà. Donc, tourisme, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations et au pluvial. Voilà les changements qui affecte notre communauté. Je mets cette délibération au vote, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Le troisième point est relatif à l'approbation du rapport sur l'évaluation des transferts de charges 2016. Donc vous le savez, il y a une commission qui s'appelle Commission locale d'évaluation des transferts de charges, la CLET, qui chaque année passe au peigne fin les compétences assurées par l'agglomération au bénéfice des communes les nouvelles compétences qui sont assurées et qui affectent ainsi la ristourne, pas la ristourne, enfin le retour de l'attribution de compensation qui se trouve, disons, déduite d'autant. Ainsi, il faut lire dans cette délibération, les ALP, la ville de la Grande Motte a confié ses ALP, c'est-à-dire l'école après l'école, enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais enfin, moi je l'appelle comme ça, ce moment de distraction et de foutaise, donc qui, par rapport à ce que, à l'idée que je me fais de l'école, donc, il y a 26 000 euros plus 67 000 euros de la Grande Motte qui seront déduits de l'attribution de compensation 2016. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher 1 726 182 euros, l'agglomération, la ville de la Grande Motte, touchera l'attribution de compensation de 1 686 950 euros. Voilà. Voilà, ça fait partie des... Ça fait partie des... C'est la seule affectation comptable différente pour les autres communes. Les choses restent en l'état. Vous voyez, pour Moglio, vous avez une attribution de compensation prévue de 9 millions au départ. Une fois ajustée, dans la mesure où il n'y a aucune compétence, elle reste au même niveau. Voilà. Je précise qu'elle est fixe, qu'elle ne peut être modifiée qu'avec l'accord de toutes les communes et des communes intéressées. Des questions sur cette modification? Il n'y en a pas? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pardon, des abstentions?
Oui.
Oui? Vous n'êtes pas d'accord avec le...
Ben, on n'avait pas assez d'éléments pour...
Et Madame Grèce, je ne vais pas vous convaincre de voter pour, bon, ça m'est égal. Ce que je dis simplement, c'est que mécaniquement, à partir du moment où la commune de la Grande Motte ne paye pas par ses propres deniers, avec son propre personnel, ce temps post-scolaire, post-scolaire, ce temps périscolaire, elle le fait faire par l'agglomération qui paye à la place de la commune. En conséquence, quand on tire le trait à la fin de l'année, vu que l'agglomération fait pour le compte de la commune une obligation qui est imputable à la commune, elle déduit de la facture le coût que ça lui a coûté. Ah, c'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de... C'est pas votre politique. Si vous voulez vous opposez ailleurs.
On ne s'oppose pas.
Pardon ? Je veux dire, enfin, bon, je vous donne l'explication, après vous faites ce que vous voulez, voilà. Et il est bien entendu que vous faites ce que vous voulez. Bon, vous maintenez le vote ?
Oui.
Très bien.
Absorption.
Donc, je vous remercie. La prochaine fois, il sera tout plus clair. Le point numéro 4 concerne leur aménagement. Alors, je ne prendrai peut-être pas part au vote, puisque j'en suis le président. Néanmoins, en tant que président, bon, c'est une question de modification, mais je crois que je peux prendre part au vote, parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de compétence. Je refais un petit peu l'histoire. Les communes, dont la commune de Moglio, qui ont été visionnaires, ont voulu se doter d'un outil, pardon pour le terme, par rapport au personnel qui sont employés, en tout cas d'un moyen d'exercer une compétence d'aménagement pour le compte de la commune, que sont les sociétés d'économie mixte, les SEM. Plus tard, cette SEM s'est transformée en société publique locale d'aménagement, avec des parts qui ont été prises par la communauté d'agglomération et les communes, la composante. C'est-à-dire qu'on a voulu étendre, compte tenu que cette disposition semblait profitable, à l'ensemble de la communauté, de l'intercommunalité, cette disposition. C'est ainsi que la société économique s'est mue en société publique locale d'aménagement, dont l'avantage était qu'elle était dispensée d'une mise en concurrence avec les autres SEM qui auraient prétendu à l'obtention de certains marchés, c'est-à-dire elles avaient le monopole. Aujourd'hui, si la commune veut les mettre en concurrence, elle peut le faire, mais leur aménagement n'est pas mis en concurrence puisque c'est comme un service communal ou intercommunal. Aujourd'hui, une société qui n'évolue pas, c'est comme une commune où il n'y a pas de nouveau logement. C'est une commune qui est, c'est une société qui régresse. Et dans la perspective de développement de ces dispositions, de ces outils, On a voulu y voir une ouverture vers des compétences qui sont celles de la compétence des ports, des offices de tourisme, des campings, de gestion d'équipements publics ou de construction d'équipements. Ainsi, leur aménagement va pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle de délégation de services publics. La commune ou l'intercommunalité pourront se décharger pour la gestion d'un équipement, comme je l'ai dit, relatif à un équipement portuaire ou de tourisme ou de camping de loisirs. Elle pourra, si elle le veut, avec l'accord de la collectivité, exercer ses compétences. C'est une manière, quelque part, d'élargir son champ de compétences et de ne pas rester dans une fonction qu'elle avait initialement d'aménageur, d'aide d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui n'était pas très rémunératrice. Et quand la confiance est arrivée, et l'exigence aussi de produire des logements moins chers, avec un équipement, avec une structure publique, des capitaux publics, elle a été aménageur pour le compte des communes. Voilà. Donc, ce qui se passera dans quelques temps pour la faune Mouillon, ça sera leur aménagement par le biais d'une convention qui fera ses dispositions. Aujourd'hui, il est prévu d'élargir son champ de compétences à d'autres choses, puisque on a un portefeuille 1800 logements, toutes communes confondues, et qu'à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'élargir le champ de prospection, ce qui est le cas. Aujourd'hui, il vous est proposé, comme il est proposé à toutes les communes composant l'intercommunalité, je vous rappelle qu'on l'a passé ça en communauté d'agglomération, il est proposé, disons, d'élargir le champ de compétences de la SEPL avec les compétences dont je viens de parler. La forme juridique, elle est identique à celle qu'elle a aujourd'hui, à deux différences près. Il n'est pas imposé qu'une collectivité en soit l'actionnaire majoritaire, même si aujourd'hui c'est la communauté d'agglomération. Deuxièmement, son objet social lui permet d'intervenir non seulement dans le domaine de l'aménagement, mais aussi dans celui de la construction, de la gestion des services publics et plus largement des activités d'intérêt général. Voilà. Et pour ceux qui craindraient que dans le paragraphe où il est dit que la commune, la SPL, pourrait avoir un droit de préemption d'expropriation, elle ne pourra jamais le faire que tout autant qu'elle aura été désignée par la commune en tant qu'attributaire d'un marché ou d'une mission d'aménagement, d'une convention qui l'habilite, pour le compte de la commune, à exercer ce droit de préemption ou d'expropriation. Voilà. On passe au vote ? Pour la transformation de cette... Donc, je vous demande d'approuver la modification de l'article 3 des statuts, comme indiqué ci-dessus, et d'autoriser son représentant aux assemblées générales de la société de leur aménagement à voter en faveur de cette modification statutaire. Je crois que je vais voter quand même, parce que ce n'est pas une question d'argent, il n'y a pas de prix de l'intérêt. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous passons au point suivant, qui est l'approbation des avenants. Pour les appels d'offres, comme il s'agit de vidéoprotection urbaine, je vais demander à notre spécialiste Laurent, M. Tricoire, de présenter le point.
Merci. Dans le cadre du schéma directeur de prévention de sûreté et de sécurité, la commune a souhaité procéder à une extension du système de vidéoprotection urbaine conformément au texte en vigueur. Donc, c'est un marché qui avait été attribué et notifié en 2015, le 25 juin. Les travaux ont été réalisés à Carnon. Pour ce faire, il faut, suite à une mise au point des prestations, deux avenants ont été conclus. Avenant numéro 1, relatif à l'installation du système d'alimentation autonome pour le système de lecture de plaques, qui est, pour information, rue du Gros, pour un montant de 3 153,60 €, hors taxe. Avenant numéro 2, relatif à la fourniture et la mise en œuvre d'une alimentation sur batterie rechargée, pour rendre l'éclairage public autonome sur le site de port de Carnon, d'un montant de 3 302,47 € hors taxe. Ça, c'est sur le port, pour information, un endroit où... Un privé devait nous laisser raccorder sur chez lui par convention, puis s'est retracté. Donc, nous avons été obligés de pourvoir une alimentation sur batterie qui se rechargera donc de nuit. Afin de finir le programme de l'ensemble des tranches, il est nécessaire d'optimiser le déploiement des caméras sur le site de la plaine des sports avec l'installation de 2 caméras dôme et 3 caméras qui font jour et nuit pour une protection complète du site de la plaine des sports. Ces prestations supplémentaires génèrent une plus-value d'un montant de 7 190,96 € hors taxes, soit 8 629,15 € TTC, représentant 8,66% du montant initial du marché. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 3 pour le montant que nous avons précisé.
Merci Laurent. Question ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je présente le point B qui est relatif à un contrat d'assurance conclu avec notre assureur Groupama pour la flotte automobile et le lot numéro 5. Alors on a eu cette année, on a eu une modification de contrat due à, disons, une sinistralité, merci pour le terme, une sinistralité relativement importante. On a eu un accident qui nous a coûté plus de 25 000 €, malgré les efforts que nous déployons en termes de prévention par rapport au personnel et aux situations. Et donc, la société d'assurance nous a demandé d'adopter un avenant avec une majoration de 4 535,89 € qui représente 10% du marché initial. Donc, concernant la flotte automobile du port, l'avenant porte sur une majoration de 270,30 €, soit 10% du marché initial. Donc, je précise que la commission d'appel d'offres, réunie le 7 novembre, a émis un avis favorable, et je vous demande de m'autoriser l'avenant, à signer l'avenant numéro 3 pour un montant de 4 800 €, compte tenu que nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter, après âpre négociation, les conditions de l'assureur.
C'est un malus, quoi.
Exactement, madame, un malus. Voilà. Ça se soigne par la prévention. C'est une surprise. Oui. Bon. De toute façon, c'est l'idée, effectivement, du malus. Voilà, c'est cette idée-là. On est un peu pénalisé malgré les efforts. C'est un accident qui nous a pas mal coûté. Bon, nous essayons, en CHSCT et en comité technique paritaire, de bien travailler avec les représentants du personnel, et même sans que leur avis ne nous arrive, on anticipe déjà sur la nécessité de précautions dans le cadre des prises de force, notamment pour les services techniques qui opèrent des fois dans des situations où ils sont exposés, plus que quelqu'un qui utilise un ordinateur, même si les situations ne sont pas du tout comparables. Voilà. Bon, donc je vous demande de m'autoriser à signer cette disposition, cet avenant. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Madame Favier, Caroline, va nous parler d'une décision modificative, de deux décisions modificatives au budget. Caroline ?
C'est ça. Donc les deux décisions modificatives au budget de la commune. La première, c'est dans le cadre d'opérations sur des chemins communaux, donc des travaux supplémentaires qui nécessitent une augmentation de crédit de 12 000 €. Donc là, c'est juste une compensation entre deux postes, c'est-à-dire que les dépenses qui auront été inférieures sur l'installation de réseaux et l'éclairage public viendront compenser le supplément pour les travaux des chemins communaux. La deuxième décision modificative est au sujet de travaux à réaliser pour renforcer la sécurité des établissements scolaires, des travaux d'aménagement pour un montant de 45 000 €. Sur cet aménagement, nous bénéficions d'une aide du Fonds interministériel de prévention de la délinquance à hauteur de 80%, ce qui signifie qu'il manquait 15 000 €. Et ces 15 000 € vont être basculés à partir des dépenses des recettes d'investissement.
Merci. Des questions sur ces modifications ? Il n'y en a pas ?
C'est dans le cadre des attentats
Oui, c'est ça. Alors il s'agit essentiellement de changement de barillet et de mettre des films teintés sur les vitres des établissements scolaires. enfin des classes.
Les élèves sont réputés pour ne pas être vus par les gens extérieurs à l'établissement.
En fait, on a travaillé avec la gendarmerie et sur Mobio et sur Carnoux. On a fait le tour de tous les sites pour essayer de voir dans quelle mesure il fallait optimiser la sécurisation. Et on va travailler dans plusieurs étapes, puisqu'il y a des travaux un peu plus structurants qu'il va falloir mettre en œuvre. Et la priorité, c'était que dans chaque classe, les enfants puissent être confinés. Donc dans les classes pour lesquelles il y avait encore des serrures à clé, il a été préconisé de mettre des barrières, ce qui fait que les enfants, sur commande de l'enseignant, peuvent enclencher, surtout quand il y a 3 ou 4 portes à fermer. Et ça évite aussi aux enseignants d'avoir tout le temps toutes leurs clés sur eux. Et après, effectivement, pour qu'à l'intérieur des établissements, les enfants puissent éventuellement cheminer vers un point de confinement qui a été prédéterminé, il était préconisé que depuis l'extérieur, on ne puisse pas les voir. Donc c'est par là qu'on commence.
Ces travaux dont nous faisons l'avance pourront peut-être être subventionnés, d'après ce que j'ai compris. Là, il y a un fonds qui est... Alors, je ne sais pas à quelle hauteur.
Oui. 80% hein, par le fonds interministériel de prévention de
c'est
la
sur les autres offices. Pour rentrer. Oui, on a fait le dossier.
Vous disiez qu'il y avait d'autres... qu'il y avait des travaux plus lourds à envisager.
Oui, notamment au niveau des accès. Il y a la préconisation de changer certains portails pour les rendre un petit peu moins accessibles. Il y a la préconisation aussi de remonter certaines clôtures pour qu'elles atteignent une hauteur un peu moins franchissable. Sachant que l'objectif premier qui était le nôtre, et de concert avec la gendarmerie, c'était d'éviter à tout prix de transformer les écoles de sorte qu'elles deviennent des lieux anxiogènes. Donc tout a vraiment... Enfin, le travail était très intéressant parce que les partenaires qu'on a eus, notamment au niveau de l'académie, se voulaient apaisants, parce que c'est vrai que certains personnels étaient quand même très angoissés par la situation. Donc voilà, on fait vraiment quelque chose qui est adapté, qui permet de limiter au maximum la possibilité d'une intrusion, tout en ménageant quand même des possibilités d'échappatoire, parce qu'il ne faut pas non plus tellement bien s'enfermer qu'on ne puisse pas sortir. Donc, tout est mesuré, mais si vous voulez, je vous ferai passer le détail des travaux au fur et à mesure. On est en train de chiffrer les différents travaux pour mettre en place le padage.
Ce qui m'intéresserait, moi, c'est d'avoir, pour que tout le monde ait conscience du coût de ce que c'est qu'une guerre,
hein. Oui.
Qu'on ait une fourchette...
C'est pour ça que là, c'est en cours de passage. On a commencé par ça parce que c'était...
Vous n'avez pas, à la louche, vous n'êtes pas capable de dire si on est... Quelle unité, si c'est à centaines de milliers d'euros...
On a tout transmis au service, peut-être que monsieur... 400-500 000 euros, me dit-il.
C'est énormissime, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, hein. 80% pour la FIPD, jusqu'à quelle hauteur? Parce que je me pose la question.
Non, mais c'est vous vous souvenez des... Enfin, je sais que mon propos, c'est toujours de dire qu'il y a 500 000 euros d'économie à faire par an. Hein, que c'est votre...
Non, on ne le fait pas.
Non, mais c'est votre marche. Et là, on a un événement extérieur qui nous colle 500 000 euros sur le paletot. Donc quand on dit, c'est important qu'on ait un ordre de grandeur de la fourchette du coût des événements et du coût de la guerre.
Et sur quelle durée les travaux vont se faire sur quelle durée?
Alors, je devais faire le point avec M. Travers, je ne sais pas encore vous là-dessus sur la programmation. Les premiers travaux vont être réalisés le plus rapidement possible. Et après, on va enchaîner aussi vite que possible.
Uniquement que les serrures et que les films occultants. Après, bon, c'est une autre étape qui va se faire, disons, sur les murs, parce qu'il va falloir très certainement, sur les murs, bon, il faut rester des aspects réglementaires, revoir tous les portails, l'automatisation et tout, bon, ça c'est un autre cheminement. Mais en premier, bon, c'est... Et puis, il faut ne pas oublier aussi qu'il faut que ce soit compatible, disons, avec la sécurité des bâtiments aussi. C'est-à-dire que tout le dossier que nous avons, nous allons le présenter, disons, aux pompiers, bon, pour voir si c'est compatible. Ça sera compatible, mais il faut qu'on ait cette garantie-là. Puisqu'après, quand on va se retrouver en commission de sécurité, ce qu'il y a, bon, c'est comment c'est l'éducation qui travaille dans le sens aussi, mais il y a la sécurité dans le bâtiment aussi, il faut en tenir compte.
Bien. Et nous sommes bons élèves, nous faisons ce qu'on nous préconise, même si certaines collectivités ont relevé les brancards sur l'un de chez nous. Je vous propose de voter sur les décisions modificatives. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours Madame Favier, pour décret en ces teintes. et des créances admises en non-valeur.
Monsieur le comptable public de la commune de Montbiot a dressé des états de produits irrécupérables du budget principal et du budget annexe du port de Carnon pour les années 2009 à 2015. Donc vous avez une liste qui est jointe où c'est les produits qui n'ont pu être recouvrés pour les raisons sont indiquées sur cette liste. Alors une précision est faite, les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure, ce qui signifie que ce n'est pas parce que aujourd'hui il est proposé de les passer en créances éteintes qu'elles ne seront pas recouvrées. C'est-à-dire que nous, derrière, la commune va faire le nécessaire, évidemment, pour récupérer un maximum de ces créances. Les créances admises en non-valeur ont seulement pour effet d'alléger la comptabilité du comptable. Elles n'impliquent pas que le recouvrement soit abandonné. Alors, il s'agit des produits irrécouvrables soumis à l'approbation du conseil municipal sur le budget principal, créances admises en non-valeur 174,56 € et créances éteintes 6481,39 €. Pour le budget annexe du port de Carnon, les créances admises en non-valeur pour un montant de 34 253,86 €. Donc, monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à admettre ces titres en créance irrécouvrable.
Merci, Caroline. Oui, ça ne veut pas dire qu'on renonce. Néanmoins, au lieu de les freiner dans la comptabilité, on les freine, entre guillemets, à 4 ans, à peu près, c'est ça?
Alors, tout ce qui est. Pour 4 ans, tout ce qui est créance dont l'ancienneté est supérieure à 4 ans, effectivement, elles font l'objet d'un provisionnement à 100% et tout ce qui est entre 2 et 4 ans à hauteur de 50%.
Bien. Madame Grèce.
Il n'y a pas le moyen de réagir avant, enfin plus rapidement, parce que par exemple, Heurtemat, là, depuis 2009... Je crois qu'il y a 4 ans, hein, on 5 ans.
Donc, on n'a pas les moyens. Si, bien sûr, tout a été mis en œuvre pour. Si elles sont encore présentes aujourd'hui, c'est bien parce que le Trésor public, là, n'a plus de solution. Eux ont tout écumé. Donc, ils les enlèvent de compte, si vous voulez, mais par contre, nous, derrière, le conseil, enfin, la communauté peut faire le nécessaire pour les récupérer. En tout cas, le maximum pour tâcher de récupérer. Tout à fait. C'est notre
C'est énorme en chiffres, c'est énorme en nombre de d'habitants.
Et oui, parce que tant que quelqu'un n'est pas joignable, ou n'habite plus à l'adresse indiquée, comme vous êtes notifié sur la liste, effectivement, à chaque fois qu'il y a une créance qui se rajoute.
Carnon, vous ne pourriez pas faire une démarche là sur Carnon,
Il vaut.
Oui. Dominique, monsieur Balzan.
C'est ma tension.
C'est
un contentieux. C'est un contentieux. Il y a 19 000 euros de bois depuis très 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 longtemps. Et on a demandé, on a mis une procédure d'échéance de propriété du navire vis-à-vis des douanes de très longtemps. On vient d'avoir les résultats. Donc on est devenu récemment propriétaire du navire. Mais en revanche, le navire, il n'a aucune valeur. Il est
obligé. Ah bon?
Donc ça va même nous engager des frais et des structures. Voilà. Et on engage une procédure de déchéance de la propriété du navire. Et ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est très complexe. Mais on est sûr. Voilà.
Cela dit, madame Comarno, c'est le comptable qui fait son travail, là. C'est pas la commune. Hein.
Ah oui, mais je.
Voilà.
Non, mais c'est pas.
Non, on vous donne les éléments.
C'est une rondelle.
Voilà. Donc je vous demande de m'autoriser à mettre ces titres en créance irrécouvrable. Monsieur Bray,
je profite de ce dossier pour avoir des nouvelles de nos plages, de nos concessions de plage et de nos loyers de passerelles. Je voudrais savoir, parce que pas dans quelques années avec un Kleenex dire ça passe en provision pour risque ou un recouvreur. Est-ce qu'on a des. Quel type de processus on met par exemple pour encaisser les loyers? Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est mensuel? Que ce soit pour la passerelle ou que ce soit pour nos plages à Carnot.
La passerelle, c'est trimestriel, si je me trompe pas, donc c'est bien ça.
Oui. Les plages, c'est saison terminée. Donc là, avant l'exercice échu, avant la fin de l'année, il faut que chaque plage nous ait payé la redevance dont elle est.
Donc là, en fait, on est en novembre. C'est d'être un peu juste, mais au prochain conseil de décembre, on doit avoir de bonnes nouvelles de toutes nos concessions.
Absolument. Dans le meilleur des mondes.
C'est Carnot, hein, c'est quand même le meilleur des mondes.
Ça nous permettra de.
C'est quelque chose qu'on pourra vérifier,
bien sûr.
On peut arriver au conseil en étant sûr qu'on a encaissé. Y compris
ce qui n'a pas bossé.
Nous y travaillons, oui. Et sur la passerelle, donc ça fait pas 3 mois qu'ils sont démarrés.
Si,
oui. Septembre, octobre.
Bon, sur la passerelle, on a eu le premier paiement au prorata temporis, et là on attend le premier trimestre plein.
Là, ils doivent nous payer le trimestre fin novembre.
Et on n'a pas d'alerte pour l'instant.
Non, pour l'instant, le premier.
Elle est en bois la table.
Pardon ?
Elle est en bois la table.
Non, nous avons rencontré le propriétaire qui a payé la dernière fois suite à notre entrevue. Il nous a dit que c'était compliqué pour lui, il nous a rappelé nos obligations que nous avons remplies. Et lui, on lui a rappelé les siennes qui étaient celles par rapport à la réfaction qui a été faite, souvenez-vous. Nous étions passés de 40 000 comme loyer à 35 000. Voilà, donc nous avons demandé de lui de remplir les siennes. Alors nous espérons fortement que ça va faire l'objet d'un versement comme il est prévu.
Après, on a des indications sur le fait que sa saison a été moyenne, bonne.
Il avait l'air assez inquiet, pour être franc. Pour l'habitude, vous avez parlé de la table, la langue n'est pas la même métal.
D'accord. Et le chèque.
Le chèque, n'en parlons pas. Non, mais attendez. Tout commentaire allusif, avant que les échéances ne soient courues, ne soient échues, tendrait à faire un procès d'intention, ce que je me refuse à faire. Voilà. Il a payé son dû la dernière fois, nous lui demandons de le payer cette fois-ci. Voilà. Je sais qu'il avait des difficultés, parce que, bon, vous disiez, la saison. Enfin, on y va, parfois, il y a quand même du monde. Hein. Après, est-ce que son compte d'exploitation est bon? Je ne peux pas vous dire. Mais il y a des. Nous le suivons de près. Voilà.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir un point.
Le prochain,
on peut avoir une information au prochain conseil.
Le prochain conseil nous confirmera la bonne santé ou au contraire on dira le reste. Oui. On passe au vote, s'il vous plaît, pour m'autoriser à mettre ce titre en créance. Irrécouvrable contre. Abstention. Merci. Caroline,
le point 8, donc la provision pour risque. Il s'agit de reprise de provision pour créances douteuses constituées en 2009 et 2014. Donc pour la commune, une provision semi-budgétaire avait été faite pour créances douteuses, a été constituée à hauteur de 31 500 euros. Cette provision a été levée pour un montant de 2 000 euros. Donc le solde pour provision s'élève à 29 500 euros. À la demande du Trésor public, et vu la nécessité d'actualiser ces provisions, il convient de reprendre le solde. Alors, on fait peut-être les deux tout en même temps ou... Au niveau du port de Carnot, donc une provision avait été faite de 40 000 euros. Cette provision a été levée pour un montant de 25 000 euros. Le solde de cette provision s'élève à 15 000 euros. Donc, à la demande du Trésor public et vu la nécessité d'actualiser ces provisions, il convient de reprendre le solde. Les reprises des provisions pour créances douteuses constituées cette fois-ci en 2016. Donc, pour la commune, Monsieur le maire rappelle que par délibération, lors du conseil du 3 octobre 2016, une provision a été constituée pour un montant de 82 000 euros. Vu l'état proposé par le trésorier principal de Mobio sur les admissions en non-valeur, il convient de reprendre cette provision pour un montant de 7000 euros. Au niveau du port de Carnon, monsieur le maire rappelle que la délibération, pareil pour le conseil du 3 octobre, une provision a été constituée pour un montant de 46 000 euros. Et vu l'état proposé par le trésor principal de Mobio sur les admissions en non-valeur, il convient de reprendre cette provision pour un montant de 34 500 euros. Donc monsieur le maire demande aux membres présents d'adopter la reprise sur provision citée ci-dessus.
Merci.
Bien. Des remarques? Non? On passe au vote? Contre? Abstention? Merci. Nous passons maintenant au fonctionnement de l'ajustement de la participation communale pour le fonctionnement de l'école Notre-Dame.
Donc, l'école Notre-Dame est une école privée sous contrat d'association avec l'État depuis le 4 novembre 1985. Il convient d'ajuster le montant de la participation de la commune pour le financement de l'école Notre-Dame suite à une augmentation des effectifs, c'est-à-dire il y a eu 4 enfants en plus. La commune de Mobio-Carnon verse une participation pour le fonctionnement de l'école, soit 383,84 euros par enfant inscrit à l'école Notre-Dame et domicilié sur la commune. Pour l'année scolaire 2016-2017, le nombre d'enfants domiciliés sur la commune est supérieur au nombre prévu, donc plus 4 enfants. Il convient d'ajuster le montant de la participation votée au budget primitif qui était de 34 000 euros et de passer à 37 000 euros. Cette participation n'est en aucun cas supérieure aux avantages consentis par la commune aux écoles publiques de même niveau. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d'autoriser cet ajustement.
Merci Caroline. Nous avons la quasi-totalité des enfants. On en a.
Excusez-nous de tête là. Vous dites 4 enfants supplémentaires?
Oui.
Ça ne colle pas avec la délibération. Enfin, de tête. Hein.
Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on fait la délibération, on parle, nous, en année civile. Et l'ajustement se fait après le premier trimestre. La rentrée scolaire se faisant en septembre. De septembre à décembre, c'est le budget de l'année en cours. Et ensuite, en décembre, on repart sur une année entière pour nous, mais pour eux, la fin de l'année scolaire. Donc c'est cet ajustement qui fait la différence. Mais il y a bien 4 enfants de plus, si vous voulez, nous, en septembre 2016, et on n'a pas pu le savoir avant, bien sûr, on sait qu'il y a 4 enfants de plus qui sont scolarisés à cette école et qui sont résidents sur Mobio. Donc il faut bien ajouter 4 subventions supplémentaires. C'est bon ou...
De toute manière, ce sont les enfants domiciliés sur. Ce sont les enfants domiciliés sur la commune. On ne payait pas les enfants.
Effectivement, l'ajustement est court de la période de septembre à décembre. Oui. Et comme les nouveaux arrivants arrivent, les élèves arrivés sont arrivés en septembre, on doit les intégrer dans la partie de subvention qui reste sur ces mois.
Oui, oui. On vous a expliqué le principe.
Non, mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi on fait pas l'ajustement 17, parce que je suis un garçon simple, on aurait pu faire en 17 l'ajustement de septembre, l'année d'après. Bon, on va pas, la mairie de Mobio et l'école Notre-Dame vont garder les relations longtemps, j'imagine. On n'est pas les mêmes structures, on aurait pu le caler sur 17. Mais là, comme vous avez dit 4, et que je vois plus bêtement, 4 fois 383, et alors là, je décroche.
Et les cas,
d'accord. Bon, mais bon, ça n'empêchera pas de voter.
Bien. On passe au vote, si vous êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Toujours le point suivant, Caroline.
Alors, il s'agit d'une remise gracieuse de la taxe sur la publicité extérieure, la TLPE, entreprise DMA de la Londe Automobile. Donc, monsieur le maire propose d'effectuer une remise gracieuse aux entreprises de la commune redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde afin de leur permettre de faire face aux difficultés qu'elles traversent et de préserver leur emploi.
l'entreprise DMA de la Londe Automobile remplit ses conditions. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d'effectuer une remise gracieuse à l'entreprise DMA de la Londe Automobile d'un montant de 618,81 euros.
Voilà, vous avez bien compris que ce sont les entreprises qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde. Ce n'est pas le choix de la commune et qu'il est guidé par le fait que ces personnes sont en difficulté pour payer certaines créances. Voilà. Dorénavant, nous essaierons de les collationner toutes. On en avait passé une le mois dernier ou il y a deux mois. Bon, au fur et à mesure qu'elles arrivent, on le fera peut-être à la fin d'année. Chaque fois, il semble que c'est un refrain. On passe au vote. Contre ? Abstention ? Merci. Voilà bien la taxe d'aménagement sur la zone franche de l'aéroport.
Alors, afin de favoriser l'attractivité d'un secteur précis sur la zone aéroportuaire, le secteur AUF, vous avez une carte jointe. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'examiner les conditions d'une baisse de taux de la taxe d'aménagement en vertu de l'article L331-14 du Code de l'urbanisme qui dispose que les communes peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5% selon les aménagements à réaliser par secteur de leur territoire. Nous proposons un taux à 4,5%.
Je vous donne un petit peu l'éclairage parce que ça peut vous paraître comme ça sorti de nulle part. Vous le savez, nous avons des zones d'activité économique, dont une qui est sur notre territoire, mais qui n'est pas gérée en direct par notre conseil municipal. Il s'agit de la zone aéroportuaire. Sur cette zone aéroportuaire, souvenez-vous, nous avons procédé à une modification, la cinquième, je pense, ou la quatrième, cinquième, du PLU, pour, disons, rendre éligible à une zone dédiée à l'aménagement, une zone qui est fléchée comme AUF. Cette zone est une zone qui aujourd'hui fait l'objet d'une promesse d'un traité de concession d'un investisseur qui s'appelle Talion et qui propose une réalisation très importante de bâtiments de logistique susceptibles d'induire 300 emplois, dont 80 transférés et 220 créés. Le directeur de l'aéroport, lors d'une rencontre officiel m'a mis en relation avec les investisseurs potentiels qui ont formulé une demande auprès des collectivités relative à un allègement des taxes afin de rendre attractif notre territoire qui est mis en concurrence avec Nîmes et avec Saint-Martin-de-Crau. Je précise qu'à Saint-Martin-de-Crau, la municipalité offre le terrain à tout investisseur, c'est 0 centime. Voilà. Donc, nous avons, commune, nous, deux volets. Nous avons le volet taxe d'aménagement, qui est payable, exigible une fois par l'entreprise, quand elle s'installe, l'ancienne TLE, et ensuite l'impôt foncier, qui est récurrent, qui est payé chaque année, outre la création d'emplois. Donc, nous avons souhaité. Ce que je vous propose, ce que Mme Feuillet vous propose, c'est, disons, de faire un geste envers l'entreprise qui viendra là-dessus. Sera-t-elle Talium, sera-t-elle une autre entreprise? En tout cas, il y a de gros espoirs sur cette logistique, sur cette spécificité d'une parcelle qui a été vraiment créée pour la logistique et qui ne laisse pas à penser que nous déplorons cette disposition et qu'elle sera applicable à toute entreprise qui arrive avec un emploi ou 10 emplois. Nous nous sommes référés à un règlement régional avec la prime d'aménagement du territoire qui fait que dès lors qu'une entreprise arrive à un certain seuil d'investissement et à un certain seuil d'embauche, cette entreprise peut officiellement être encouragée et ça sera le cas à partir de 2017 grâce à la loi NOTRe par la communauté d'agglomération dont nous faisons partie, qui elle perçoit deux types de taxes. Elle perçoit la contribution économique territoriale, la CET ou la... Oui, et la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui sont deux paramètres qui pourront être modulés cours de l'exercice 2017, quand la loi NOTRe sera en exercice, pour permettre un allègement éventuel des charges afférentes que devra supporter cette entreprise qui s'installera. Pour ce qui nous concerne, nous avons obligation, dès le dépôt de permis de construire, que la disposition que nous retiendrons soit applicable pour l'année 2017, à condition qu'une décision soit prise avant le 30 novembre de l'année 2016. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas attendre de connaître la nature de l'entreprise et les conditions dans lesquelles la Convention pourrait disposer d'une réfaction consentie par la commune, d'un allègement de taxes moyennant une embauche de principe d'une quotité de demandeurs d'emploi de la commune. Ne connaissant pas encore l'investisseur, même si on a des pistes, pas de certitude, à l'image de ce qui se fait pour, disons, rendre un territoire attractif, tel que la commune de Saint-Martin-de-Crau le fait pour dispenser totalement de taxes d'aménagement, nous avons quand même d'autres atouts, nous ne l'avons pas pour autant galvaudé notre territoire. Donc ce que je vous propose, c'est une modulation de cette taxe qui aurait pu être de 5% maximum, d'enlever 1,5%, 4,5%, ça correspond à peu près à une baisse de quelque chose de près de 80 000 euros sur la taxe d'aménagement. Voilà. Voilà.
Le fait qu'on ait des problèmes sur cette zone, des problèmes pour faire venir des opérateurs, n'est pas surprenant. On est dans une impasse. Pour tout employeur, bâtir sa structure dans une impasse, il n'y a pas de bon affichage. En plus, vous avez parlé de plusieurs centaines d'employés. Il n'y a pas de transport en commun. Ça veut dire surcharger encore les routes. C'est vraiment une difficulté et je trouve que c'est mal estimer notre territoire. En plus, dans cette zone-là, on voit qu'à côté de la poste, il y a un grand bassin de rétention qui a dû être fait. Mais ces bassins de rétention ne permettent pas l'infiltration des eaux. Là, actuellement, c'est plein d'eau. Donc, on va avoir un territoire qui, au fur et à mesure, va se retrouver avec une entreprise, un plan d'eau, une entreprise, un plan d'eau. Avant, on avait des agriculteurs qui géraient ce territoire avec des cultures ou avec de l'élevage. Et là, véritablement, on met des entreprises au fin fond d'une impasse. Je pense que c'est pas un bon aménagement du territoire.
Bon, je retiens. Merci pour votre intervention qui va me permettre de vous donner le deuxième élément. Je note que dans votre appréciation des choses, vous considérez qu'une zone aéroportuaire est une impasse. Eh bien, sachez que j'ai provoqué, il y a plusieurs mois, une réunion avec les acteurs économiques que sont l'État, la région, le département, l'aéroport, la communauté d'agglomération et bien sûr notre commune. On est allé avec M. Bazar. Nous avons provoqué une réunion auprès de M. le préfet pour exiger que voulant éviter une impasse, la condition de délivrance d'un permis de tout permis de construire serait assujettie à la réalisation, bien sûr, des infrastructures qui permettraient une desserte sécurisée et correcte du fret qui serait induit par l'installation de cette entreprise. C'est ainsi que nous avons, le 1er décembre prochain, une rencontre programmée avec le président du département, Cléber Mesquida, l'agglomération et d'autres partenaires, pour justement aborder la construction d'un barreau dont nous avons par le passé financé une étude communauté agglomération, commune et département et aéroport, pour justement évoquer des pistes éventuelles d'aménagement pour éviter que l'aménagement d'une zone d'activité portuaire à proximité d'un aéroport, quoi de plus logique, même si je n'oublie pas que des personnes comme Jean Montahu avaient en leur temps milité pour une réduction d'un projet qui s'appelait à l'époque Eurogare, qui portait sur des centaines d'hectares, qui a été ensuite pris en considération et qui a amené un PLU approuvé en 2006 qui réduisait considérablement l'aménagement de l'aéroport. Et aujourd'hui, il est question au sein de cette coquille d'aménager et de valoriser cet aéroport au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de l'activité économique. Tout cela me paraît faire sens. Cela dit, ne mélangez pas les notions d'aménagement du territoire, les notions réglementaires avec les plans d'eau, avec l'activité économique qui, bien sûr, ne se fera pas sans un cahier précis sur lequel nous veillons nous-mêmes. La DDTM s'en charge également, puisque la modification du PLU de cette zone AUF avait fait l'objet, justement, d'une anticipation. On avait même repoussé nos propres dossiers pour aménager cette zone. Donc, pour conclure, je dis que cette opération pourrait être le catalyseur d'un aménagement vière qui devrait se dessiner assez rapidement avant d'installer toute forme d'entreprise ici ou ailleurs. Je précise quand même qu'il y a des dizaines d'hectares qui un jour ou l'autre sont aménagés et qu'il convient d'aménager un barreau entre la D172 qui mène à l'aéroport, la route de Pérol, la route de la mer, avec le barreau 189 qui évite Mogio et qui doit mener à l'autoroute.
Mais alors, excusez-moi, mais alors pourquoi on statue sur ce pourcentage alors qu'on ne sait pas encore quels vont être les engagements du Conseil général et à quelle date les aménagements routiers se feront?
Je l'ai dit, c'est une délibération de principe pour, disons, contribuer à l'attractivité du territoire et pour montrer que la commune, elle, s'est intéressée à l'investisseur par rapport à la plus-value que représenterait ce type d'entreprise sur cette parcelle. Monsieur Pradé.
On va, sur un point précis, on va avoir un désaccord et je ne suis pas sûr que ce soit vous qui l'ayez généré. En fait, vous nous demandez de renoncer à cette taxe.
Non. De la voter. On a un taux maximal de 5, je vous demande de faire, je propose 4,5, et pas 5. Je propose de fixer un taux qui pourrait être le taux maximum. J'étais peut-être trop clair dans mon explication, j'aurais pu vous dire 1.
Moi, je n'arrive pas à lire dans votre délibération si on va augmenter ou baisser les impôts.
On va diminuer 0,5.
On va diminuer la part que percevrait ou que percevra la commune de 0,5%.
Donc, nous avons tous compris la même chose. Donc, vous nous proposez une baisse de la fiscalité sur les entreprises.
Sur l'aménagement de cette zone, qui est une zone compliquée, puisqu'aujourd'hui,
sur cette zone-là, vous nous proposez une baisse de la fiscalité d'aménagement. Qui c'est pas pour les particuliers, c'est pour les entreprises. Nous sommes d'accord.
Une entreprise qui n'est pas aujourd'hui clairement connue.
Donc, c'est malgré tout une baisse de la fiscalité d'entreprise.
Oui.
Dans le mandat, vous avez fait voter une hausse de la fiscalité des ménages, des particuliers. Donc ça peut être une politique. Si le territoire n'est pas assez attractif, on peut dire il faut faire un gros effort pour les entreprises. Moi, si vous voulez, par rapport à ça, on peut avoir un échange là-dessus qui n'est pas un échange indigne. Bon, on demande un gros effort aux particuliers, on fait un effort sur les entreprises, ça peut s'évaluer, se discuter. Simplement par rapport à l'attractivité, si je vois que, et simplement la mairie de Mogio, bouger et que je vois rien d'autre, je vois pas la lisibilité de l'agglomération, je me dis est-ce qu'on n'est pas en train de faire le métier des autres, de faire le métier du président d'agglomération. Parce que par exemple, il y aurait un outil à une autre époque, le pays, notre canton, était soumis à la. Il était en zone D de la finalité régionale. Donc on avait une fiscalité allégée qui permettait, pour les créations d'entreprises par exemple, d'avoir une baisse de l'impôt sur les sociétés, une baisse de la CFE, donc vous aviez sur 5 ans, vous aviez une progressivité, et donc ça, pour la création d'entreprises, c'était très très incitatif. On a fait ça de 2007 à 2013. Après, on a plus été dans cette position-là. C'était peut-être pas central, on était peut-être suffisamment attractif.
Vous savez comment moi, pourquoi ? Il y a un monsieur qui s'appelle Georges Frêche qui est passé par là.
Vous allez, mais moi je, enfin, on ne prête qu'aux riches, mais discutons. Donc ça c'est un outil, donc c'est simplement pour démontrer qu'entre 2007 et 2013, on avait un outil incitatif beaucoup plus important, et que les outils incitatifs, s'ils ne pèsent que sur la fiscalité de l'aménagement, ne sont pas suffisamment efficaces. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que fait le président de l'agglomération en termes d'incitation fiscale. Je ne l'ai pas entendu. Je l'ai vu crier que ce n'était pas sa faute, que tout ce qui se passait, ce n'était pas sa faute, mais je n'ai pas vu ce qu'il faisait pour les entreprises.
Monsieur Prédé, pour relayer votre inquiétude, que je partage, ce n'est pas une inquiétude, c'est une préoccupation. J'ai proposé au prochain bureau d'avoir une position claire là-dessus, et si vous m'avez bien écouté, ce dont je ne doute pas, vous savez comme moi que la loi NOTRe ne permettra à l'agglomération d'agir que sur la contribution économique territoriale, la CET, et la CVAE. Ils ne peuvent, quand bien même le voudraient-ils aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. À aujourd'hui, on a aidé une seule entreprise, c'est AES, on leur a attribué, parce qu'ils investissaient plus de 2 millions d'euros et parce qu'ils créaient plus de 15 ou 20 d'emplois, on leur a attribué, je pense que c'est 40 ou 50 000 euros il y a un an, au niveau de la communauté d'agglomération. Et nous avons demandé la réintégration dans un zonage, le zonage d'aide à finalité régionale. Alors, aujourd'hui, c'est le ZAFR, mais aussi la FAT, prime d'aménagement du territoire, c'est un peu pareil cette affaire. Nous en étions détenteurs. Nous l'avons perdu parce qu'il y a eu une forme de guerre économique. C'est un clin d'œil que j'ai fait, un clin d'œil, c'est plutôt un éborgne que j'ai fait. Parce que bon, c'est vrai que politiquement, il s'est trouvé que le préfet nous a dégagés. Parce qu'il y a une volonté politique de nous dégager de l'attractivité qu'on pouvait représenter. Aujourd'hui, nous sommes en reconquête de cette possibilité que de consentir au titre, comme le fait la région, d'une requalification en termes de zonage. Nous avons écrit, nous avons la communauté d'agglomération et la commune, écrit à l'État pour que la commission nous réintègre, puisqu'on est quand même en zone d'attractivité avec un aéroport. Et je partage votre préoccupation, qui est celle de dire, ne soyons pas les dindons de la farce, n'ouvrons pas généralement nos cœurs et nos porte-monnaies, comme ça, tout de go, sans nous assurer que les autres en font de même. Je rappelle que l'enjeu, quand même, c'est la création de 220 emplois. Si ce type d'entreprise venait à s'installer chez nous, et que personnellement, ça ne peut pas me laisser indifférent, pas plus que ça nous laisse indifférent. Après, on peut faire le calcul autrement. Si on dit que quand on propose à une commune de réduire, ne serait-ce que de manière, c'est un projet de 45 millions d'euros, c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Mais si, dans la symbolique, moi je tiens beaucoup au symbole, et vous y tenez aussi, il y a des commémorations autour de Jaurès, de qui on voudra, de la République. On a quand même des références où on est dans le symbole. Moi je ne veux pas que l'on dise, parce que ça m'irait pas bien, la commune de Moguio, elle n'est même pas capable de faire un petit effort pour faire venir l'entreprise à tirer 220 emplois. On pourrait nous le reprocher. Demain, la presse pourrait écrire, un décideur pourrait écrire, la presse relayant la décision d'un décideur, qui dirait, ils ne nous ont même pas fait cadeau d'un centime. Alors, à un moment donné, je pense que ça mérite. Cette situation, elle n'est pas ad hominem, c'est-à-dire, ça n'est pas une situation de copinage d'un membre du conseil municipal dont je fais partie, avec un investisseur en disant on va faire payer les pauvres Mélébruyens et les pauvres Carnonais, en revanche on va exonérer les entreprises sous la forme d'une politique libérale. Non. De la même manière que nous avons des actions de territoire pour encourager les PME, avec on a cette semaine le concours pour les très petites entreprises, il y a un prix régional, on en a remis un l'autre jour localement, on va aller au Corum ce jeudi. De la même manière, renoncer à 80 000 euros sur la possibilité d'en avoir 10 fois plus, me paraît être un pari ou un engagement que j'assume. Voilà, c'est tout.
Alors moi, si vous voulez, je comprends la posture du maire de Moguio qui a la double casquette de vice-président à l'agglo et qui essaye d'impacter en étant facilitateur. Mais à côté de ça, quand on est un peu lucide, on se dit que les Montpelliérains...
C'est pour ceux qui le seraient.
Non, mais on se dit que les Montpelliérains sont des Montpelliérains et que quand ils défendent leurs intérêts, ils le font avec efficacité. Vous avez expliqué tout à l'heure qu'on était une zone privilégiée et qu'on ne l'est plus. Donc il y a des bagarres à mener. Je ne les vois pas. Moi, les bagarres. Je ne vois pas le pays de l'or et son président mener des bagarres et être offensif économiquement. Je ne le vois pas. Je pense, moi, qu'un logisticien, si vous lui dites... Le barreau, la remarque de ma collègue était fondée. Les accès pour un logisticien, c'est central.
Visibilité, accessibilité, on est bien.
Bon, voilà. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas une opportunité fiscale. Si le gars vous lui fait un barreau d'accès, il va déclencher. Si vous demandez au président du Conseil général, est-ce qu'on pourra avoir un barreau, le président du Conseil général, il va vous dire, que fait l'agglo? Que fait l'agglo? Quel montant? Et aujourd'hui, le montant de l'agglo, je ne le vois pas. Donc je ne vois pas de président d'agglo qui se donne les moyens de faire quelque chose d'offensif en termes de développement économique. Et je vois la mairie de Moguio qui dit « Je crée encore une opportunité fiscale, en fait financée par les particuliers, parce que c'est ça qui se passe, mais là, on n'a pas de signaux de l'agglomération qui nous dit « Moi, sur les aménagements, je colle, j'y suis, je suis en première, je suis leader, je vais chercher des partenariats avec le département, on ne le voit pas. »
Vous venez de dire le terme leader. La commune de Moguio, elle est leader au niveau de l'économie, elle n'attend pas la décision de la communauté agglomération. Elle viendra, je n'en doute pas. Mais c'est à nous à créer la voie, c'est à nous à montrer la lumière. Et je pense que c'est notre rôle, justement, de montrer la voie et de dire, nous, ça nous parle. On fait un geste. Après, il ne m'apportait pas de défendre le président. J'aurais mis une raison, justement, de faire le contraire.
Non mais moi, je veux bien qu'on le prenne souple.
Attendez, c'est pas la bonne instance.
On va dire, moi, j'ai quelques moments où il y a de quoi être excédé. On a monté de briques et de brocs, avec votre soutien, un début, par exemple, de salon de l'emploi, qu'on avait fait à Morastel. En réalité, le président de l'agglo s'y est jamais déplacé. Il n'y a jamais mis le nez, et on s'aperçoit là qu'il est en train de le planter. Donc vous voyez bien que le président de l'agglo, sur le développement économique, sur l'entrepreneuriat, sur la commune de Moguio, il ne fait rien. Il ne fait rien, et quand il peut nous planter, il nous plante. Que vous soyez dans le diplomatique, parce que vous êtes son vice-président, je le comprends, mais vous comprendrez que moi là-dessus, je vais pas faire comme si je n'avais pas vu. On est en train d'avoir une agglo qui est en train de tuer son territoire, d'immobilisme et de laisser aller. J'espère que ce n'est pas de la malveillance. Mais si on prend juste la chronologie des faits, ça y ressemble un peu.
Les enjeux sont sur notre territoire, M. Pradeil. L'aéroport, il est chez nous. Il est à Moguio-Carnot. Voilà. Et je dis que le conseil municipal, je dis que ce serait bien s'il y avait une belle unanimité pour montrer la voie et aux investisseurs, et à l'agglomération, si tant est qu'elle ait besoin, qu'on lui montre la voie. Je pense que, en la matière, moi, ce que je vous demande, c'est de faire preuve d'exemplarité et de réalisme vis-à-vis, quand même, de cet enjeu. Jamais, jamais, on a imaginé avoir une entreprise comme ça qui crée autant d'emplois. Alors, est-ce que c'est un effet d'aubaine? Bien entendu que le barreau, le département nous le doit. Après, les contributions des uns et des autres, je ne les connais pas. C'est son champ de compétences. La région, en termes d'aménagement économique, sera là très certainement. Mais je vais dire, soit dans la vie, vous êtes un suiveur, soit vous êtes, sans être un prophète, mais au moins, avoir la tête haute et avoir l'exemplarité de la démarche. Ne pas tout attendre de l'autre. La solidarité, moi, je suis d'accord, oui. L'exemplarité, c'est encore mieux. Voilà. En ce domaine, moi, je vous demande d'être exemplaire. Voilà. Avec une somme qui relève plus de la symbolique, et je rappelle que ce n'est pas l'argent prélevé sur les contribuables. Je dis que si l'entreprise n'en vient pas, il y aura un manque à gagner de ce que pourrait représenter une taxe assise sur 60 000 mètres carrés de bâti qui pourrait représenter une somme de 800 000 euros. Mais encore faut-il savoir ce que sera réellement le bâti, ce que sera la réalisation. Aujourd'hui, on parle d'un pourcentage. On ne parle pas d'une somme que les Melgoriens et Canonais vont donner. On parle d'une somme, c'est un petit peu comme au tiercé, où on dit je mise 1 pour gagner 800 fois plus. Bon, voilà, je pense que le pari vaut la peine d'être tenté. Alors après, votre ressentiment ou votre crainte par rapport à l'autre assemblée délibérante que la commune d'agglomération, vous pouvez en faire état en conseil, mais ce n'est pas moi à vous apporter les réponses aujourd'hui. Oui. Hein, on est d'accord. Voilà. Bien, je vous propose, mesdames et messieurs, madame Rabinovitch.
Oui, vous nous parlez d'une baisse de moins 0,5. Il ne figure pas dessus. Je ne vois pas de...
Non, on vous propose oui, de voter un taux. On vous dit que ce taux peut aller de 0 à 5. Oui. Voilà. Nous vous proposons de 1 à 5, excusez-moi. De 1 à 5. Nous vous proposons de voter 4,5. Voilà. Et pour illustrer le propos... Mais non, mais on vous dit... On vous dit qu'on peut fixer des taux. Je vous demande votre avis pour fixer le taux. Qu'est-ce que vous proposez comme taux, madame Rabinovitch?
Non, mais comme vous allez faire le compte rendu, vous avez marqué que ça et vous allez dire qu'on a approuvé entre 1 et 5.
Non, non. Moi, je vous demande. Sur le compte rendu, madame Rabinovitch, il y aura marqué 4,5. Voilà, maintenant, on le met à la discussion. Non, si vous me dites, moi je veux deux, ou je veux rien. Je vous pose la question. Le débat est ouvert. On vous dit que ça peut aller de 1 à 5. Et moi, je vous dis, sur l'échelle de 1 à 5, un demi-point représente, en gros, sur la base d'un bâtiment dont je vous ai la pique, la plateforme ministérielle de courrier, elle fait 28 à 30 000 mètres carrés, presque 3 hectares de bâti. Ça serait le double. Voilà. En gros, un bâtiment comme ça rapporterait une taxe aménagement, en gros, cette somme-là, en gros. Après, si c'est deux fois moins, eh bien, ça sera divisé par deux. Ça ne sera pas deux fois plus, c'est sûr. Ce que je vous dis, c'est pour que vous puissiez vous faire une idée, quand vous dites, est-ce que tu me prêtes de l'argent? Est-ce que je vous demande 2 euros ou est-ce que je vous demande 20 000 euros? C'est la nature, c'est l'ordre de grandeur. Je vous donne l'ordre de grandeur, je ne vous cache rien. Je vous cache rien. Et je vous demande votre point de vue, si vous êtes d'accord ou si vous voulez faire une autre proposition.
Moi, je trouve fou que l'aglo augmente les impôts et qu'on ne voit rien.
Mais tenez, bon, moi, je regrette de ne pas pouvoir vous répondre en ma qualité de président, parce que je ne le suis pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Voilà. Voilà. Je précise quand même que la commune, les délégués communautaires de Moguio n'ont pas voté pour l'augmentation des impôts. Il y en a qui l'ont voté. Sont présents ici. Voilà. Moi, je ne vais pas voter. Bien. Je vous propose maintenant, alors je vous fais la proposition, c'est de voter le taux de la taxe d'aménagement à 4,5 sur la zone AUF. Et que sur cette zone, là, pas partout, pas ailleurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Monsieur Cassard, Bernard, tu prends la révision allégée du PLU.
Alors, dans notre séance du 18 mai, nous avions, le Conseil nous avait autorisé, adopté d'ailleurs, l'engagement d'une procédure de révision allégée du PLU sur une zone que vous avez une carte qui est jointe, hein, je pense que vous avez tout vu. Cette révision donc s'est déroulée du 4 août au 12 septembre. Les personnes publiques associées ont donné leur avis, comme ça doit se faire. Elles ont toutes donné un avis favorable, certaines avec certaines observations auxquelles il a été répondu par une lettre qui a été adressée au commissaire enquêteur le 29 septembre 2015. Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 10 octobre 2016 et il a donné un avis favorable sans réserve au projet de révision du PLU. Nous vous demandons donc d'approuver cette révision allégée.
Merci. Bien, madame.
Je m'étonne de cette demande, en ce sens que il y a quelques jours, en agglo, on nous a proposé d'utiliser à peu près la moitié de la zone 1 à UE2 pour l'aménagement des portes de l'aéroport. Et sur cette zone, sur les 14 hectares, 7 hectares en zone rouge ne seraient pas aménagés, seraient aménagés en zone bassin de rétention, enfin tout au moins chose comme ça. Ce qui veut dire que toute l'autre partie de la zone 1AU2 rouge, qui est en zone rouge, ne va pas être gérée. Je m'inquiète en ce sens que quand on a une zone inondable, on essaye de la gérer ensemble et pas en donner la gestion pour un tiers de la zone simplement. Que là, nous nous trouvons, quand on regarde la carte géologique, à une altitude de 0,50 m, on est sur des alluvions.
En fait, simple, madame, comment voulez-vous en venir?
Excusez-moi, il faut que tout le monde soit au courant. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'infiltration possible. On va continuer à densifier, à imperméabiliser le bassin versant des Nègues 4 dont je vous ai parlé, et il y a l'agglomération de Montpellier, la métropole de Montpellier qui urbanise tout le reste du bassin versant des Nègues 4. Il n'y a pas d'exutoire à ce Nègues 4. Le seul moyen qu'il puisse avoir, c'est de rejoindre par je ne sais quel chemin l'étang de l'Or, et l'étang de l'Or est bouché par le gros de Carnon. Le gros de Carnon, il y a des portes qui sont en fait un barrage anti-sel et qui coupent les trois quarts du débit de l'eau. Ça veut dire qu'il y a des études qui ont été faites aussi bien par le bassin versant du cible du Lez que du bassin versant de l'Or, et qui disent que avec ce boulet d'étranglement, on aggrave en hauteur, mais aussi en temps.
Bon.
Excusez-moi, ça fait partie de la zone. En temps d'inondation, quand votre rez-de-chaussée est inondé pendant 11 jours au lieu d'un jour, ça veut dire que toute votre maison, toute la capillarité remonte. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on continue à urbaniser et à imperméabiliser les sols alors qu'on n'a pas d'exutoire pour l'eau, et que quand normalement on fait de l'hydraulique, on commence toujours par l'aval, c'est-à-dire par la mer. Et donc là, on gère les bassins versants haut, mais on ne gère pas ça. Donc c'est aussi bien Monguio que la Grande Motte qui se retrouvent impactés par le fait de comprendre des aménagements. Pourquoi on n'aménage pas en entier la zone rouge inondable? Et donc c'est véritablement grave. Dans votre texte, vous dites monsieur le commissaire enquêteur. Un commissaire enquêteur est quelqu'un qui, dans une enquête publique, est chargé de vérifier si en effet la mairie met à disposition des gens les documents, et quand il a des réponses du public, il transmet aux promoteurs de projets, à la commune, les questions, les inquiétudes du public. Bien sûr, le promoteur de projet répond à ces questions, mais le commissaire enquêteur n'est pas quelqu'un qui a des diplômes en hydrologie. C'est un cadre à la retraite, c'est pas quelqu'un qui a une compétence par rapport aux problèmes de chaque zone. Donc là, dire que monsieur le commissaire enquêteur, il a bien fait son passage, il a bien dit qu'il avait entendu les uns et les autres, mais il n'est pas capable de répondre aux questions qui lui ont été posées.
Madame Combarneau, vous avez eu la politesse de vous écouter, de vous laisser dérouler. Chaque fois, vous nous dites la même chose. Écoutez, aujourd'hui, on a un document officiel. Vous mettez en cause la compétence d'une personne, ça vous regarde. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est, au regard justement des difficultés que nous avons dans les zones inondables de faire de l'aménagement, vous l'avez souligné, nous n'en ferons pas. Nous disons que dans les zones qui, elles, ne sont pas soumises à ces aléas d'inondabilité, telles que la zone 1 à UE2, suite à la transformation de la révision allégée du plan d'urbanisme, nous permettent de faire le pendant. Voilà, on aura une zone calipige, comme ça, pour vous dire ce que ça veut dire. Comme ça, nous pourrons aménager 2000, un peu plus de 2 hectares à la noix de la Mougère. Voilà.
J'ai demandé les documents jeudi dernier, jeudi matin, à l'administration de
la mairie. On vous l'a donné ce matin, je le sais. Bon, on les a donnés.
Vous avez demandé les documents jeudi. Vous n'êtes pas sans savoir que le vendredi était férié, n'est-ce pas? Donc, les documents vous ont été envoyés ce matin.
Ce matin, à 11h30
À 11h02.
À 11h02, bon, mais moi, j'étais partie. Voilà.
Bon, écoutez, bon.
J'ai des rendez-vous.
Allez, alors, il fallait nous dire à quel moment il vous était là.
Vous pouvez me le dire l'après-midi. Et donc, véritablement, je dis, et je dis, actuellement, il y a un maire qui se retrouve devant les tribunaux. Et il n'était pas maire quand le règlement d'urbanisme a dit que c'était soi-disant pas inondable.
Madame, merci de m'avertir.
Et donc moi j'avertis tous les futurs maires de mon bureau qu'ils auront peut-être des comptes à rendre devant la justice.
Qui c'est qu'un regard de voyant, voyant. Il est vers la droite là-bas. Il vous écoute. Bien. Alors, nous avons donc un aménagement possible. Je vous demande d'approuver cette modification.
Je refuse de vote.
Eh bien, vous attendez que je le demande. Voilà. Ça n'existe pas. D'abord, il y a qui est contre? Qui s'abstient?
Alors, contre?
Voilà. Pour? Levez la main. Ce qui est acceptable, c'est ne prendre pas part au vote quand il y a un intérêt que la personne... Si la personne est jugée partie, elle peut ne pas prendre part au vote sans que pour autant sa non-participation soit synonyme de désapprobation ou d'approbation de ce qui est exposé. Bernard, tu prends le point suivant, s'il te plaît.
Alors, le point suivant, c'est une participation, vous en avez l'habitude maintenant, à une extension de réseau électrique. Nous avons reçu un permis de construire qui a été déposé en date du 14 décembre 2015. Et qui a fait l'objet d'une consultation de RDF. RDF a proposé une extension pour un montant de 4 248,70 € hors taxe. Et donc, comme d'habitude, la commune prend à sa charge et récupère bien sûr sur le pétitionnaire.
Bien, on passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Le point suivant est relatif à la modification du tableau des effectifs et notamment affecte, si vous voulez, les emplois permanents du port. Donc, comme vous le savez, le port est en régie autonome, donc il est sous la responsabilité du maire. Et nous avons la nécessité, j'expose devant vous, la nécessité de créer un poste de secrétaire de port niveau 3. Selon la nomenclature de la Convention collective nationale des ports de présence. Ensuite, remplacer un départ à la retraite d'un agent de maîtrise titulaire qui nécessite de créer, en ces lieux et places, un emploi d'agent portuaire qui est un agent d'exécution technique, donc bien sûr en respectant la nomenclature de la Convention collective. Voilà. La personne sera prise en CDD pour une période d'essai initiale de 6 mois, qui pourra être confortée par la suite en CDI. Et puis, par rapport à la nécessité, chaque année, réitérée de nécessité d'avoir des emplois saisonniers, je propose, à partir de juillet 2016, de pourvoir au tableau des effectifs la possibilité de 3 emplois saisonniers d'une durée déterminée de 3 mois pour la saison estivale. Ça veut dire que pour les mois de juin, juillet et août, si on a besoin d'un saisonnier, on le prend 3 mois. Si on a besoin qu'un mois, on le prend qu'un mois. Voilà. Je vous demande de créer 3 postes qui correspondent aux besoins que nous avons recensés cette année. Voilà. Je soumets ça en vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Monsieur Tricoire va vous parler de prévention.
Alors, convention. Prévention.
Vas-y, Laurent.
Alors, on va vous parler de la convention de mise à disposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'ACFI. Monsieur le maire désigne, après avis du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, qui a eu lieu pour info le 21 octobre, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Il peut être satisfait à cette obligation en désignant un agent en interne parmi le personnel quand on a cette spécificité au sein de nos effectifs, ce qui n'est pas le cas, ou en deuxième temps, en passant une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale. Donc c'est ce qu'on vous propose, si joint le projet de convention, qui fixe précisément les modalités. Les modalités sont de 4 passages par an. Voilà. Ainsi, il est proposé d'autoriser M. le maire à signer cette dite convention.
Question ? Je pense que ça parle de... Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Toujours toi, Laurent.
Donc maintenant, on va parler des autorisations spéciales d'absence pour le personnel de la collectivité. Donc les autorisations d'absence sont à distinguer des congés. Elles n'ont aucune incidence sur les droits de l'agent bénéficiaire et sont considérées comme du temps de travail effectif. Donc vous avez un tableau qui est joint avec les différentes attributions. Je ne vais pas les citer toutes, je pense que ce n'est pas la peine. Donc après vous avez aussi des explications sur ces autorisations spéciales d'absence, les conditions qu'elles doivent comporter.
Ces dispositions que M. Tricoire vous expose ont été soumises aux organismes paritaires. C'est-à-dire que c'est une approbation et je puis vous dire que chaque fois nous avons veillé à, sans faire preuve de largesse, nous avons fait preuve d'humanité. C'est-à-dire que nous sommes allés toujours, bien sûr, à hauteur de ce qui était légal, mais on a même dépassé parfois quand il s'agissait d'un décès ou de dispositions correspondant à des situations familiales douloureuses.
Tous les plus ont été réalisés dans les colonnes décès, notamment décès de l'enfant, où il y avait 3 jours auparavant, on est passé à 5 jours. Rien de particulier.
Le comité a voté à l'unanimité ?
Oui, à l'unanimité.
À l'unanimité, oui. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demande d'approuver ces dispositions. Qui est contre ? S'abstient ? Je vous remercie. Fatih, Madame Moulin va nous parler d'une convention fragile, parce qu'il s'agit de verre.
Non, pas forcément. Oui, il s'agit de la convention avec la Verrerie d'Alès et le Pôle national du cirque du Languedoc-Roussillon. Alors, au regard de notre politique culturelle, la commune a opté pour un partenariat avec le Pôle cirque. Et ce dernier a permis la diffusion, je ne sais pas si vous en souvenez, le 27 avril 2016, du spectacle Tir à vol sur la place de la Libération par la compagnie d'Aramouaï. Le Pôle cirque, sa mission est de proposer les diffusions de spectacles de cirque contemporain dans l'ensemble du territoire régional et aussi d'apporter son soutien à la structure de diffusion, en l'occurrence nous. C'est la raison pour laquelle une aide de 270 euros hors taxe a été amenée à la ville de Mouillot-Carnon pour le spectacle Tir à vol, ainsi que la mention et la date de la représentation et le logo de la ville sur le catalogue du Pôle cirque qui est diffusé nationalement. Monsieur le maire demande donc à l'Assemblée d'approuver la dite convention et d'accepter le versement d'une participation du Pôle national du cirque de 270 euros hors taxe suite à la programmation du spectacle Tir à vol du 27 avril 2016.
De telles délibérations sont assez rares pour qu'elles soient soulignées.
Oui.
En principe, c'est, on doit décaisser. Et là, on encaisse.
Là, on encaisse. Pour
donc, j'ai l'intention de te proposer davantage de délibérations.
De collaboration avec le policier. D'accord.
Avec Caroline, surtout. Bien. Pas de questions là-dessus. On passe au vote. Contre, abstention. Je vous remercie. Point suivant.
Alors, le point suivant, il s'agit d'une autre convention, une convention de partenariat avec la métropole de Montpellier. Dans le cadre de l'implication des médiathèques dans la lecture publique, l'accession au multimédia ou à la musique, nous nous proposons ici de passer une convention de partenariat entre la ville et la métropole de Montpellier dans le domaine du jeu, par le biais d'un dispositif qui s'appelle Métropole en jeu. Un dispositif qui est dans la continuité de ce que nous proposons nous-mêmes et que nous avons déjà enclenché sur nos médiathèques et qui permettra par ailleurs une plus-value de nos structures afin de les faire rayonner sur un autre bassin de vie que le bassin Monviau-Carnon. De plus, ce dispositif s'inscrit dans une complémentarité de l'offre plus classique qui est proposée par nos propres établissements et nous permettra de répondre de façon encore plus efficace aux objectifs de proximité, de lien social, des enjeux majeurs du projet politique. Néanmoins, un petit bémol pour cette première mise en place, le projet ne sera retenu qu'au sein de la médiathèque Gaston Bessept. En effet, les travaux qui ont été entrepris sur la médiathèque de l'Ancre et des dates déjà positionnées à la médiathèque de l'Ancre ne permettront pas de mettre ce dispositif à l'Ancre cette année. Peut-être l'année à venir, mais pas cette année. Voilà. Cette 7e édition du dispositif aura lieu du 19 novembre au 14 décembre, 14h à 18h à la médiathèque Gaston Bessept, et sera constituée d'après-midi de jeux vidéo, de jeux de société, de jeux collectifs géants, enfin tout autour du jeu. Voilà. Monsieur le maire demande aux membres présents de l'autoriser ou l'adjoint délégué à signer le contrat de cession tripartite Métropole en jeu.
Merci. Pas de remarques. Passons au vote. Contre, abstention. Merci. Point 19, convention de l'association Marteau Plume.
Oui, alors c'est une convention de partenariat avec l'association Marteau Plume. Marteau Plume, c'est une association qui est basée sur Mobio, qui dénombre à peu près une soixantaine donc, de membres, avec pour but de faciliter le lien social en donnant accès à tout type d'activités culturelles de manière économe, solidaire et conviviale. Alors, elle propose ainsi à ses adhérents des places de spectacle à prix réduit pour de nombreuses représentations de spectacles vivants dans des lieux partenaires qui sont au jour d'aujourd'hui au nombre de 7. Elle est également partenaire de la médiathèque Gaston Bessept et anime des ateliers d'adultes et d'enfants autour de la lecture et des loisirs créatifs. Alors, étant déjà partenaire avec 7 structures autour du territoire et étant une association composée majoritairement et essentiellement de Melgoriens, bien évidemment, cette association nous a fait la demande d'un partenariat au même titre que les 7 autres structures avec laquelle elle est liée. Donc leur principe majeur, c'est de créer une dynamique commune de déplacement, c'est-à-dire que les gens qui sont membres de l'association se covoiturent pour aller assister à des spectacles, pour développer des moments d'échange autour des représentations et faire de la sortie culturelle un moment de rencontre et de partage. La ville souhaite donc tisser un partenariat avec cette association dans une optique de développement culturel basée sur la proximité, le lien social et le rayonnement. Donc, monsieur le maire demande aux membres présents d'approuver la convention de partenariat avec l'association Marteau Plume pour octroyer aux membres de cette dernière les tarifs privilégiés de la commune pour la saison 2016-2017.
Bien. Pas de remarques. Contre. Abstention, monsieur Tordé.
C'est une super assaut. Hein.
Oui, c'est ouais. Extrêmement dynamique, avec un très bon état d'esprit et qui, effectivement, porte des valeurs que nous portons tous ici, de partage, de lien social, de solidarité. Donc, c'est très, très actif sur le...
Puis le petit côté le convoitirage, ainsi de suite, il y a plusieurs dimensions qui sont très intéressantes.
Nous apprécions cette démarche, c'est pour ça que nous la soutenons. Dans cette convention de partenariat que je vous appelle... De tout mieux approuvé. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Hélène, Laurent va nous parler. Mettre d'argent.
Reversement des recettes de la vente des bracelets passe-fête pendant la fête votive 2016. En effet, depuis 2009, la ville a mis en place le bracelet passe-fête qui permet aux festagères de bande d'assister aux courses et animations faites dans nos arènes pendant la fête. Dans le but donc de soutenir les clubs taurins et l'école des rasoteurs pour ces manifestations, il est proposé de leur redistribuer l'argent qui a été récolté. Et pour ceux qui me demanderaient, ce qui représente une subvention de 1 402,50 €. Et à titre informatif, donc le fait d'assister à l'ensemble des manifestations payantes organisées par les clubs taurins coûterait 92 € pour une personne. Donc Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d'autoriser le reversement des sommes concernées au club taurin et à l'école des rasoteurs de la commune.
Bien. Ça fait 6 € par an, quoi. 15 ans, 92 €. Bien, on passe. Monsieur Brunet, la question.
La répartition, c'est on divise en combien? En 4 hein.
En 4. En 4. 3 clubs taurins, une école des rasoteurs.
D'accord. Et donc, et à part égale?
Oui, à part égale.
En 4 encore. Allez, on passe au vote. Hein. Contre, abstention, merci. Sophie, Madame Campagne va nous parler des conventions milieu scolaire des intervenants.
Engagée dans une politique éducative ambitieuse, la municipalité soutient les équipes enseignantes pour mener à bien leurs projets d'école. Dans ce cadre, la commune supporte les charges liées à la venue d'intervenants extérieurs œuvrant durant le temps scolaire sous la responsabilité pédagogique des enseignants. Ces intervenants sont financés à hauteur de 500 € par classe en élémentaire et 400 € par classe en maternelle, soit un total de 28 400 € pour l'année 2017. Ces interventions sont encadrées par le biais de conventions que vous pouvez trouver en annexe. Il convient d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions avec les associations mentionnées plus haut.
Bien, donc rien de nouveau sous le soleil, c'est ça? On passe au vote, si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs. Je précise quand même que ça représente, tu l'as dit Sophie, oui. Cette affaire. Hein.
Je peux le redire.
Oui.
28 400 €.
Voilà. Allez, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Jean, M. Albert va nous parler de
mise à disposition gracieuse de la salle de première vente de carbone pour la MJC à l'occasion du Téléthon 2016. M. le maire expose aux membres présents que dans le cadre de la 30e édition du Téléthon qui se déroule le samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2016, plusieurs manifestations sont organisées par des associations de la commune afin de récolter des fonds. Le samedi 3 décembre 2016, la MJC de Moguio-Carmont organise une pièce de théâtre au profit du Téléthon à la salle privée de Carmont. À cette occasion, il demandait à la commune de mise à disposition gracieuse de la salle.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je précise que s'est tenue hier au gymnase Anquetil et pendant tout le week-end une rencontre sous le signe du handisport avec la rencontre des.
Sport adapté.
Le sport adapté, excusez-moi. Oui, nous avons accueilli avec Jean-Albert Laurence Gély, nous avons accueilli, je serai qu'à la remise des prix, Laurence est allé un peu plus, Jean aussi, on est allé, disons, manifester notre engagement auprès des enfants inadaptés qui ont concouru pour une compétition de judo que le regretté Roger Maury avait mise en place il y a 24 ans et qui marche très très bien et qui permet à ces jeunes de s'intégrer. De fédérer des familles qui sont en difficulté, c'est un rendez-vous très apprécié. Et donc, on met à disposition, bien sûr, avec l'aide d'Eurosport, on met à disposition nos locaux. Et je précise que cette année, lors de la fête du sport, une association RSO, présidée par M. Segarra, avait permis de collecter combien ?
2 200 €.
2 200 € qui ont été, disons, attribués, qui ont permis de compenser les frais, une partie des frais, la commune a mis le reste, pour accueillir cette manifestation. Voilà, donc je remercie tous les contributeurs, soit l'administration ou les élus qui sont associés à ce mouvement. Point suivant, Jean.
Convention de partenariat.
Si, tu peux voter, non? Tu peux voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À unanimité.
Convention de partenariat entre la commune et la CUMA. Monsieur le maire expose un membre présent que dans le cadre du soutien de la commune au secteur agricole, des activités de la Prima, une convention de partenariat a été établie afin de définir les engagements réciproques des deux parties. La Prima met à disposition, en cas de besoin exceptionnel formulé par la commune, lors d'inondations notamment, deux tracteurs permettant notamment d'actionner les ponts automobiles. Elle peut bénéficier une fois par année civile de la mise à disposition de la salle à Morastel pour son assemblée générale. En tant que partenaire, la Prima est exonérée du paiement de la location de la salle. Monsieur le maire demande aux membres du conseil municipal d'approuver la convention de partenariat avec la CUMA. Je précise, c'est la salle et en même temps le nettoyage.
Voilà, oui. On propose également, par rapport à la mouture initiale, la dispense des frais d'entretien. C'est ce que tu viens de dire.
C'est ça.
Voilà, si vous êtes d'accord. En fait, c'est vrai que la CUMA, elle fait payer une prestation, mais elle est plus solidaire que rémunérée par la prestation. Il nous amène les tracteurs. Si les tracteurs ne tournent pas du tout ou ne tournent pas beaucoup, il ne le facturera pas. Donc ça mérite, lors de la tenue de l'Assemblée Générale, ce qu'on appelle un retour d'ascenseur, ne serait-ce qu'au moins la reconnaissance de la collectivité pour le dispenser de toute forme de contribution en numéraire, compte tenu qu'il nous aide bien dans des moments de solidarité. Voilà, je tenais à l'exposer et remercier publiquement son président et son conseil d'administration. On est d'accord ? On passe au vote contre ? Abstention ? Je vous remercie. Monsieur Balzamo, on passe au port.
En condition de déclassement tarifaire consenti au navire Bayou Rescator. Monsieur le maire rappelle que deux des navires sont partenaires actifs de l'organisation conditionnelle de la fête de la mer annuelle, le Bayou et le Rescator. Il bénéficie à ce titre d'une convention de dégrèvement tarifaire de deux catégories au regard de l'implication au déroulement de cette manifestation nautique. Compte tenu de l'annulation exceptionnelle de la fête de la mer, monsieur le maire souligne qu'il convient de maintenir la pérennité de cet abattement tarifaire et précise que cette disposition a reçu l'avis favorable du conseil d'exploitation du 27 septembre 2016. Il est donc proposé d'accorder le déclassement tarifaire consenti au Bayou et Rescator.
Voilà, merci Dominique, c'est ce qui s'appelle la transparence de la vie de la... Vous avez compris, non ?
J'ai une question ?
J'ai pas trop compris cette délibération.
Et la délibération, ça veut dire que, compte tenu, nous, on rend des comptes, comme chacun, tout responsable doit le faire, au conseil portuaire, on rend des comptes sur l'acquittement des contributions relatives à des amodiations. Il est convenu avec les navires Bayou Rescator une réduction de la tarification parce qu'ils sont volontaires pour transporter lors de manifestations nautiques, lors de la fête de la mer, des passagers gratuitement. Ça nous évite de payer une prestation. Cette année, compte tenu que la fête de la mer ne s'est pas tenue, on pourrait penser qu'on pourrait les faire payer. Et ce qu'on dit, c'est que c'est indépendant de leur volonté et que c'est exceptionnel qu'on l'ait annulé, que ça n'était pas de notre fait, et qu'on maintient la réfaction que l'on fait sur la modiation.
Mais qui c'est les passagers qui transportent
des passagers, vous, si vous voulez.
Bon, maintenant...
Oui. Le jour de la fête de la mer, les personnes sont embarquées gratuitement. Il n'y a pas que les élus, les gens qui connaissent le maire. Tous ceux qui veulent être embarqués, ils s'embarquent. On n'en a aucun.
Monsieur Pradel,
il y a aussi des visites des écoles.
Pour compléter.
Les écoles. Quand on a fait la fête du patrimoine, il y a eu le Rescator qui a été prêté gratuitement pour accueillir une émission de télé et des gens, ainsi de suite. Comme ils contribuent, si vous voulez, à la mise à disposition du patrimoine communal, on leur conseille une réduction. Comme ça, au moins, c'est clair. Les gens, ils disent pas, il est pote avec un tel, avec un autre. C'est clair.
Pour compléter les propos du maire, la réduction du Bayou, c'est 82 euros par an. Et la réduction du Rescator, c'est 900 euros par an. C'est tout.
Bien. Allez,
continue.
Voilà. On va se faire de froid. Bien. Je vous propose donc d'accorder ce déclassement tarifaire consenti au navire Bayou. Bayou, ça veut dire donner. Et Rescator. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dominique ?
Oui, la 25. Alors la 25, cette délibération, c'est le corollaire de la délibération 14. C'est l'adhésion au régime obligatoire complémentaire santé vise d'unicale prévoyance pour les agents en contrat de droit privé. Dans ce contexte, la régie du port est désormais soumise aux adhésions SIAPRE souscrites depuis juillet 2016 à l'occasion de l'emploi des agents saisonniers. Donc il faut adhérer à la complémentaire santé, à la régime de protection sociale, la METRA, la GFOS, l'URSSAF et la CARSAT. Monsieur le maire précise que ces dispositions ont été validées par le conseil d'exploitation du 27 septembre et est donc proposé d'autoriser ces dispositions évoquées ci-dessus.
Bien. Pas de questions, pas de vote, contre, abstention. Je vous remercie. Avant de nous quitter, je rappelle que le vendredi 27 novembre, nous avons une après-midi dans le cadre de la formation des élus sur la loi NOTRe. Je rappelle, vous l'avez reçu.
C'est dans le cadre de la formation.
C'est le 25 novembre.
Oui. Oui. Dans le cadre de la formation continue des élus.
Ça tire sur les crédits de formation individuelle de formation des élus.
Non. Non. C'est pas votre échelle en papier individuel.
Non. Donc c'est le cadre de l'information des élus.
Oui, information, oui. Information, pardonnez-moi. Tout le conseil municipal, bien sûr, est invité. Voilà, je le rappelle. Premier élément. Deuxième élément, la tenue du prochain conseil se fera le 19 décembre à Carnon.
Ah, Carnon.
Voilà.
Carnon.
Mais vous avez
dit que c'était dématérialisé
le 19 décembre.
Et ça n'empêche pas qu'on va le faire quand même. Hein? Il est dématérialisé, mais on va pas, vous allez pas être vous chez vous, moi chez moi. On se réunira, mais sans document papier.
On va acheter les...
Voilà.
Quoi,
Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre participation.
Thank you.